Bonjour à tous, nous espérons que ce Noël à peine derrière nous vous apporte joie, lumière et paix. Et nous vous souhaitons bienvenue à cette dernière émission 2007 de Chant contre Chant, émission sur le cinéma présentée chaque mois par l'association Profil sur l'antenne Fréquence Protestante. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean-Lô, et j'aurai à côté de moi Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Jean Wilkowski, bonjour Jean.
Bonjour à tous.
Et Jacques Champeau, bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors traditionnellement, décembre est le mois des palmarès. Chant contre Chant ne va pas manquer la tradition. Chers amis et confrères de cette émission dont il m'arrive si souvent de ne pas partager la vie, qui est pour vous le tiercé gagnant des films en 2017, Marie-Jeanne?
Alors, moi, c'est d'une part, bien, je te les ai donnés. Voilà, je suis prise au piège. Alors, c'est d'abord L'autre côté de l'espoir d'Aki Kaurismäki. Ensuite, Détroit de Catherine Bigelow. Et enfin, En attendant les hirondelles de Karim Massou.
Merci Marie-Jeanne. Jacques, qu'est-ce que tu as choisi?
Alors, moi, j'ai Une femme douce de Sergei Slonitsa, Certaines femmes de Kelly Richard et The Square de Ruben Östlund.
Hein? Merci Jacques. Et Jean, toi? Ben,
moi, c'est encore trois autres. C'est Au revoir là-haut de Dupontel, Je danserai si je veux de Hamoud, une israélienne palestinienne, et Faute d'amour de Zaginsev.
Mais je vois que ça n'a pas changé, personne n'est d'accord. C'est rassurant, personnellement, moi-même, j'ai choisi trois films encore différents. Moi, j'ai choisi Le jour d'après du coréen Hong Sang-soo, j'ai choisi The Young Lady de l'anglais William Aykroyd, et L'amant d'un jour du français Philippe Garrel. Voilà. Bon, en tout cas, aucun des films que nous avons choisis aujourd'hui ne figure parmi ce palmarès, ce qui ne nous empêche pas d'être talentueux. Que ce soit La Villa du français Robert Guédiguian, Un homme intègre de l'iranien Mohamed Rasoulof et Les bienheureux de la réalisatrice algérienne Sofia Djamma. Et il se trouve que ces films ont tous un point commun. Et chacun témoigne souvent d'une façon assez critique de la société à laquelle appartient son réalisateur ou réalisatrice. Et donc on va commencer avec La Villa de Robert Guédiguian. Cinéaste solidement installé dans le paysage cinématographique français, 20 films en plus de 35 ans, et qui obstinément, avec ça et là quelques écarts, inscrit tous ses films dans le décor unique de la ville de Marseille, en portant son regard d'homme de gauche sur ce qu'il appelle les pauvres gens. Ouvriers, chômeurs, salariés, petits commerçants, on peut ainsi citer À la vie à la mort en 95, Maurice Jeannette en 97, À l'attaque 2000. Alors, fidèle à ses thèmes, fidèle à ses idées, Robert Guédiguian est aussi fidèle à ses acteurs, dont trois l'accompagnent régulièrement dans ses films. Ariane Ascaride, Gérard Mélan et Jean-Pierre Darroussin. On les retrouve, bien sûr, dans La Villa. Mais Jacques, est-ce que cette fois, les héros ne sont pas un peu fatigués?
Oh, disons qu'ils ont vieilli, comme nous tous, et que leurs idéaux de jeunesse se sont un peu émoussés au fil des ans. Ce trio d'acteurs, nous le retrouvons effectivement, comme tu l'as dit, dans presque tous ses films depuis plus de 30 ans. Ce qui permet d'ailleurs à Guédiguian de faire un amusant flashback dans ce film en reprenant un extrait d'un de ses premiers films, Kilossar, qui date de 1985 et où nous les voyons bien sûr trentenaires. Alors dans La Villa, parce qu'il change un peu à chaque fois, il compose une fratrie, Armand, Joseph et Angèle, qui se retrouvent au chevet de leur père inconscient à la suite d'un malaise cardiaque. Armand est resté toute sa vie à côté de son père et a repris le modeste restaurant qu'il tenait. Joseph a été mis à la retraite un peu brutalement à son goût, et il est venu avec, comme il le dit lui-même, sa trop jeune compagne Bérangère. Et Angèle, qui est devenue actrice, n'avait pas revu son père depuis 25 ans, depuis la noyade tragique de sa petite fille Blanche. Leur retrouvaille baigne dans la mélancolie, il y a un peu de Tchekhov dans l'atmosphère, on dirait la cerisaie transposée dans un petit port méditerranéen.
Cette nostalgie n'est pas seulement celle de la jeunesse passée, c'est aussi celle d'un changement social.
Oui, car cette calanque de Méjean dans la banlieue de Marseille était un petit village en fait d'ouvriers et de pêcheurs. Et maintenant, ce sont des résidences secondaires, presque toutes fermées l'hiver. Changement social dans les lieux, mais aussi pour les protagonistes. La génération du père et des vieux voisins est restée ouvrière. Ils ont gardé leur fierté d'avoir construit la villa de leurs mains dans une sorte de communisme utopique. Joseph et Angèle, eux, ont bien gardé la trace de ces idéaux dans leurs discours. Discours parfois émus, mais plus souvent ironiques. Mais ils sont objectivement sortis de la classe ouvrière. Quant à la génération plus jeune, les trentenaires que sont Bérangère et Yvon, un médecin qui est le fils du vieux couple, ils ont définitivement tourné la page. Ils parlent marketing, argent, création d'entreprise. Ces trois générations sont pour Guédiguian en fait la métaphore, le symbole de l'évolution de notre société.
Mais est-ce que c'est pas un peu simpliste, hein, un peu schématique ?
Oui, bien sûr, on n'est pas dans le réalisme avec Guédiguian, mais plutôt dans le théâtre. D'ailleurs, Guédiguian tourne en décor naturel, mais il a pu privatiser le village, qui est désert l'hiver, et en faire un vaste plateau. Et il l'utilise comme un plateau de théâtre. Les personnages se parlent d'un balcon à un autre, se voient d'une maison à une autre. Et d'ailleurs, le théâtre est au cœur d'une des intrigues. Angèle, l'actrice, se voyant courtisée par un pêcheur beaucoup plus jeune qu'elle, une sorte de Pierrot lunaire qui a eu le coup de foudre adolescent en la voyant dans une pièce de Brecht, et qui récite du Claudel en reprisant ses filets. Donc vous voyez, on est loin du réalisme. Les intrigues amoureuses sont d'ailleurs presque du Marivaux. Bérangère quitte le vieux Joseph pour le jeune Yvon, et Angèle commence un amour, sans doute éphémère, avec son pêcheur au doux sourire.
Pourtant, tous ces personnages mélancoliques vont se réveiller.
Oui, et ceci grâce à des enfants migrants, une très jeune fille et deux petits garçons qu'ils découvrent dans la forêt voisine. Ils vont les recueillir et la solidarité qu'ils vont montrer vis-à-vis de ces enfants complètement démunis va les faire sortir de leur nostalgie un peu stérile et pour Angèle du deuil de sa fille. Et vont leur faire revivre un peu l'idéal de fraternité de leur jeunesse. Et il faut les voir dans la dernière scène hurler avec les enfants sous un viaduc. Là, on n'est plus dans un souvenir nostalgique, mais vraiment un moment de vraie joie. Alors, Robert Guédiguian, il est un peu comme Ken Loach ou comme Aki Kaurismäki. Il creuse inlassablement le sillon de la solidarité, de la fraternité. Alors, on peut trouver, bien sûr, que le message est presque toujours le même, mais ce message fait plutôt du bien.
Oui, Marie-Jeanne, est-ce qu'à toi aussi, ce message répété ça fait du bien?
Alors, je voudrais faire une remarque préalable. Je ne suis pas de ces cinéphiles qui trouvent de bon ton de critiquer Guédiguian. Non, j'aime bien. Jusqu'à présent, j'ai pas mal aimé ses films, certains beaucoup même. Et j'allais donc voir ce film avec un préjugé plutôt favorable. Jacques, je t'en avais parlé. Tu m'avais dit, il faut le voir.
Ah alors, oui, moi
voilà. Je l'ai adoré. Donc, je l'ai vu. Mais quelle déception! Quelle déception! D'abord, je m'y suis terriblement ennuyée. À aucun moment je n'ai cru à cette histoire. Alors, je ne parle pas de l'accent marseillais forcé qui devient vraiment ridicule, mais bon, passons là-dessus. Mais je parle du scénario. Les histoires d'amour sont invraisemblables. Et je ne parle pas de la différence d'âge, parce qu'avec notre président, nous avons dû réviser nos critères de ce point de vue-là, et c'est une bonne chose. Mais bon, on n'y croit pas. C'est un fourre-tout. Alors, on a l'impression que Guédiguian veut faire son dernier film.
Oh, et non, sûrement pas.
Non, mais hélas, enfin, il a tout mis, là. Il a tout mis, essayé de tout mettre. Alors, l'héritage, le poids de l'âge, bien sûr, nous en sommes tous là. La famille, la reprise du restaurant, le vieux père, les amours, enfin bon. Et alors, cerise sur le gâteau, il y a ces deux ou ces trois, je ne sais plus, pauvres gosses émigrés qu'on retrouve dans la garrigue, tout propre sur eux, bien gentil.
Enfin, mais non, au contraire, il est là.
Mais non, tu n'as rien compris au scénario. Mais oh non, c'est too much. Enfin, on se dit, mais il fallait mettre le petit sel sur les immigrés. Enfin, non, écoutez.
Est-ce que c'est du too much ou bien
Je suis tout à fait de l'avis de Marie-Jeanne. Je trouve que ce film est détestable.
Vous ne pouvez pas dire ça.
Je connais des réalisateurs qui peuvent faire un tas de sujets différents. Dès qu'ils changent de film, ils changent de sujet. Par exemple, Billy Wilder ou les frères Cohen. Ici, ce malheureux Guédiguian raconte toujours la même chose.
Et en plus, c'est pas tout à fait vrai quand même. Il évolue quand même.
À poil, il y a peut-être 5% qui changent à chaque fois. Mais si, de temps en temps, c'est mari-femme, de temps en temps, c'est femme-amant, de temps en temps, c'est frère et sœur, mais c'est toujours les mêmes trois et on en a vraiment marre. En plus, c'est une accumulation de clichés, son truc. Cette vieille femme, elle a une soixantaine d'années, c'est pas si vieux que ça.
Nous sommes
Je crois que vous êtes vraiment des radoteurs.
Non, mais qui tombe amoureuse de ce petit pêcheur ridicule, ouais, c'est ridicule. Ces trois mômes qui tombent du ciel aussi, qui sont bien gentils, bien propres, c'est ridicule.
Mais tout est ridicule.
Mais tu n'as pas été sensible à ce côté métaphorique justement de ces trois jeunes qui arrivent, alors qu'avant, toute la famille qu'on voit avant, c'est une famille stérile, et ces trois jeunes qui arrivent, c'est vraiment toute la métaphore de l'Occident à bout de force, et heureusement les immigrés arrivent pour apporter.
Oh là là, tu vas cherché vraiment loin pour défendre ce film indéfendable.
Ah non, mais je vais faire une remarque que je fais de temps en temps, mes chers amis. C'est que quand nous avons des films exotiques, nous sommes absolument incapables de juger de l'accent, évidemment, ou des choses comme ça. Et nous nous pâmons devant des choses que nous pensons véritablement très importantes. Or, en fait, dès que nous avons un film français, on dit « Ah, il a l'accent marseillais. Oh, c'est déjà
oui,
vu. »
Non, Donc, je connais bien la parisienne, là, qui s'apprend tout de suite au marseillais.
Exactement. Mais c'est facile. Et il faut quand même avoir un peu de distance.
Que vous disiez
que c'est toujours un peu la même chose, là, nous sommes d'accord. Mais il y a énormément de grands artistes qui ont creusé toujours le même sillon.
Oui, absolument. On ne reproche pas Woody Allen de faire toujours le même film, ou à Coris Marquis de faire toujours le même film.
Exactement.
C'est une œuvre.
On est exactement dans Ken Loach. D'ailleurs, certains l'avaient reproché au dernier Ken Loach d'être effectivement comme ses précédents, ou comme le Coris Marquis, ses précédents. Alors, on peut rejeter en disant, bon, c'est pas la peine que je le vois, parce que, effectivement, j'ai déjà vu le précédent. Alors, c'est peut-être les défauts de ce genre d'émission, c'est qu'on s'oblige à voir des films qu'on ne voudrait pas voir. Mais à partir du moment où on le voit, je pense qu'il faut admettre qu'effectivement, c'est une autre manière de travailler le même sujet.
Et puis, je trouve que ce personnage, quand même, a évolué. C'est très bien, d'ailleurs, qu'on les voit dans cette citation de notre film. Je trouve qu'il y a quand même deux choses un peu nouvelles chez Guy Guillon. D'une part, on est vraiment dans un monde qui est en train de disparaître, et ça, je trouve que c'est bien rendu. Le TGV, le village qui est à moitié vide, c'est vraiment un monde qui disparaît.
C'est une originalité.
Mais c'est pas possible.
Mais attendez, alors, on va parler de clichés. À ce moment-là, tous les films, vous allez voir, sont des clichés. Je vais vous démolir les suivants en vous disant que c'est des clichés.
Non.
C'est la manière de les traiter.
Elle est pas mal. Comme le jeu des lumières est assez intéressant.
On s'ennuie poliment.
Les paysages sont magnifiques.
La
mer est belle.
Ce que j'ai pas trouvé, justement. C'est filmé une platitude incroyable.
Oui, mais le fait que toutes les pièces, par exemple, soient ouvertes sur la mer et sur le ciel.
Mais bien sûr.
C'est un film qui. Il y a des films qui sont renfermés. Là, on est sur un film qui est complètement ouvert.
C'est un décor de théâtre, comme tu disais.
C'est un décor de théâtre, mais il faut l'admettre comme ça.
Bah oui, mais c'est pas du cinéma, si c'est du théâtre.
Ah, on peut le traiter en cinéma.
Enfin, on peut dire que c'est du théâtre filmé.
On va changer de décor. On va passer de Marseille à Alger.
On va traverser
le film suivant. Le film sera mieux accepté. Les Bienheureux, premier film de la réalisatrice algérienne Sofia Djama. Elle a reçu pour ce film le prix de la meilleure réalisatrice au festival de Dubaï, et tandis que son actrice principale, la délicieuse Lina Koudri, décrochait celui de la meilleure actrice à Venise dans la section Horizonti. Née au rang 82, Sofia Djama a réalisé avant ce film plusieurs courts-métrages, dont l'un le plus connu, Mollement samedi matin, racontait l'histoire d'un violeur qui a des problèmes d'érection. J'aimerais bien voir le film. L'an dernier, on présentait ici En attendant les hirondelles de Karim Massaoui. En 2015, il y avait Les terrasses de Mirza Kalouache. Et en 2016, Dans ma tête, un rond-point de Hassan Ferhadni. Autant de films de jeunes cinéastes apparaissant comme les signes d'une renaissance d'un cinéma algérien assez atone depuis longtemps. Marie-Jeanne, est-ce que ce film de Sofia Djama t'apparaît comme une hirondelle de plus annonciatrice de ce printemps ?
Alors oui, le printemps du cinéma algérien est bien arrivé, et avec une hirondelle qui est une femme, de surcroît. Ce film se situe en 2008. La réalisatrice suit plusieurs personnages dont la vie s'entremêle, mais qui ont en commun des liens d'amitié ou de famille, mais certes pas la mémoire. De sorte que nous avons deux visions de l'Algérie actuelle. D'un côté, les adultes désabusés par le devenir de leur pays, qui n'est pas du tout celui dont ils avaient rêvé dans leurs aspirations démocratiques. Ils ont vécu les années sanglantes et, comme dans En attendant les hirondelles, le traumatisme est encore là dans une société déstabilisée et malade de son passé. Alors Samir, médecin gynécologue, veut croire en l'avenir de son pays, mais Amal, sa femme, universitaire, est plus réaliste, plus lucide, donc beaucoup plus pessimiste. Alors, son constat est amer. Après la décennie de terreur qu'elle n'a pas oubliée, la société algérienne est certes apaisée, mais elle sombre dans un conservatisme religieux qui méprise la femme, avec une police qui abuse de son pouvoir. Contrairement à son mari, elle veut que leur fils quitte l'Algérie pour trouver en Europe une meilleure vie. Cet enfermement de la société algérienne sur ses blessures et l'absence d'espoir, je trouve, est très bien rendu par la réalisatrice qui filme cette génération dans des cadres fermés, une voiture, un salon, l'intimité d'un tête-à-tête à la table d'un restaurant où ils fêtent les 20 ans de leur mariage.
Alors ça, c'est un point de vue sur un groupe. Y en a-t-il un autre ?
Ah oui, d'un autre côté, une autre vision de l'Algérie. La réalisatrice suit les jeunes, le fils du couple, Fahim, et ses amis, Ferial et Reda. Alors ici, l'ambiance est tout autre. Ces jeunes ne contestent pas la société dans laquelle ils vivent, mais ils font avec. Ils se créent des espaces de liberté où l'alcool, le tabac, la drogue aident à tuer d'ennui. Sans pour autant rejeter la tradition. Reda, par exemple, est en plein délire mystique, jusqu'à vouloir se faire tatouer dans le dos une sourate du Coran, une sourate du Coran, mon Dieu. Mais il boit, il fume et il écoute du alors taquacor. C'est un mélange surprenant de musique pompe et de religiosité. Alors ce sont eux les bienheureux, eux qui ne portent pas le poids de ce terrible passé, qui croient en l'avenir. Mais on sent néanmoins que sournoisement l'intégrisme n'est pas loin.
Mais dans un groupe comme un autre, il y a des femmes.
Ah oui, alors la réalisatrice donne la part belle aux femmes qu'elle filme avec tendresse et empathie. Et je peux dire que, en ce sens, son film est très féministe. Chez les adultes, c'est Amal qui est la porte-parole distinguée de la révolte face aux déceptions et désillusions de l'Algérie actuelle. Alors, chez les jeunes, c'est Ferial, l'ami de Fahim, admirablement interprétée par la jeune Lina Koudri,
tu le disais.
Ah oui, ravissante. Et on est surpris par sa liberté d'esprit et de mœurs, son indépendance qu'elle défend avec conviction, son côté frondeur, sensuel, sa vivacité, son cynisme. Sa féminité affirmée représente l'espoir de cette Algérie qui pense ses blessures, mais qui, même plombée par son passé et ses difficultés économiques actuelles, est délibérément tournée vers l'avenir. Alors, il est à noter que dans ce film, aucune femme n'est voilée, que leur manière de vivre est très occidentale et que la réalisatrice n'hésite pas à filmer un corps de femme nue, oh, certes à travers un rideau de douche, mais on est loin du cinéma iranien.
Oui, mais enfin, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un autre personnage dans ce film. C'est la ville, non ?
Oui. Sofia Janma nous montre la ville sous tous ses aspects en nous entraînant dans le dédale de ses petites ruelles, au fond de squats où se réunissent les jeunes, aussi bien que sur une terrasse d'où l'on surplombe Alger la Blanche, majestueuse. Un film puissant, la mise en scène dynamique et qui rend hommage à ceux qui ont lutté pour une société démocratique contre l'extrémisme.
Oui, Jean, est-ce que toi aussi tu as été séduit par ce visage que donne Sofia Janma de l'Algérie ?
Oui, j'ai été tout à fait séduit par ce film, parce que d'abord ça m'a beaucoup fait apprendre de choses sur l'Algérie actuelle, dont je me suis rendu compte qu'on connaissait très peu de choses. C'est pas loin l'Algérie pourtant, et on a un lourd passé avec eux, et en fait... on ignore absolument ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée.
Dans leur société. Ouais.
C'est dans leur société. Et ce film, à ce point de vue-là, est absolument très, très, très intéressant. Et mérite d'être vu, ne serait-ce que pour cet aspect documentaire.
Il a un côté très pédagogique.
Oui, documentaire et pédagogique. Et ça, c'est vraiment le gros aspect positif de ce film, à mon avis.
Alors attention, si on est trop dithyrambique, Jacques va nous dire qu'on fait de l'indulgence tiers-mondiste.
Jacques, à toi.
Non, mais moi, je pourrais faire comme vous et dire qu'on a déjà tout vu, on a déjà vu la corruption, déjà vu l'intégrisme, etc. Eh bien non, je ne vais pas faire ça, je trouve que c'est un film qui est intéressant, parce qu'effectivement, j'ai trouvé que l'utilisation justement de ces deux générations... Alors, évidemment, on pourrait dire que c'est schématique, vous voyez, mes chers amis. On peut toujours trouver l'inverse. Mais je trouve que l'idée, chacun des personnages incarne une certaine façon de se positionner par rapport à cette société. Et ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, on va me dire... c'est schématique, puisque
non,
c'est...
Non.
Mais je trouve que c'est très bien. Le père, effectivement, il est d'une certaine manière... C'est pas qu'il soit résigné, c'est partir pour lui serait véritablement trahir. Alors que la mère, au contraire, elle pense encore à un truc. Et elle veut que son fils sorte. Le fils, il sait pas ce qu'il veut faire, effectivement. Et la jeune, au contraire, la jeune amie, elle est très, très, très active. Et puis il y a celui qui, effectivement, lui, est tenté aussi par l'intégrisme. Donc on a effectivement différentes facettes de cette société. Bon, c'est un peu artificiel de tous les réunir dans ces cinq personnages. Mais d'un autre côté, comme dit Jean, moi je suis très pour ce genre de choses, parce qu'en fait ça nous fait découvrir des choses très rapidement dans un film bien dramatisé.
Pour moi,
c'est une qualité.
Il y a sa démonstration de la différence entre deux générations, c'est une chose la plus importante du film. D'un côté, les 45-50 ans qui sont désillusionnés.
C'est intéressant parce qu'on retrouve cette même phénomène générationnel.
Et les jeunes qui au contraire, ce qui est très marquant aussi, c'est la montée de l'intégrisme.
Tout à fait.
Autant l'ancienne génération ne parle du tout de religion, autant eux, ils ne parlent que de ça.
Oui, absolument.
Par contre, l'homme est quand même un petit peu macho. Hein. Sa femme, il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi. Hein.
Qui, Samir?
Oui. À un moment donné, il l'engueule assez fortement.
Oui, mais enfin, elle sait se défendre et c'est elle qui a le discours le plus intelligent, quand même.
Elle sait se défendre et c'est certainement le personnage le plus positif.
Alors, ce qui est bien fait aussi, c'est que l'environnement est traité par petites touches, en fait. La montée de l'intégrisme, le fait qu'on ne puisse pas prendre de l'alcool en terrasse d'un café ou des choses comme ça, c'est très léger, mais c'est bien fait.
Oui, et je trouve, il y a une chose que je trouve remarquable dans ce film, c'est l'utilisation des lieux.
Oui.
Parce que les groupes sont caractérisés par les lieux. Il y a l'appartement des anciennes générations, sans être riche, c'est cossu, c'est bien rangé, etc. Il y a ainsi opposé complètement l'espèce de grotte dans laquelle habitent les jeunes. Et puis à l'opposé, il y a Alger la Blanche, qui est magnifiquement filmé. Je trouve que c'est imagé,
très belles images. Très, très belles images.
Eh bien, nous sommes d'accord.
Voilà. J'ai quand même une réserve. Je dois dire que j'ai trouvé que. C'est sans doute le tempérament de la réalisatrice, mais je trouve que au cours des scènes, il ne se passe pas grand-chose. Il y a une espèce de dialogue un peu à vide qui m'a un petit peu gêné. Voilà. C'est un petit peu la seule réserve que j'aurais à faire à ce film.
C'est
un film qui se passe dans une soirée où il ne se passe rien, quasiment rien.
Oui. Sinon, ils échangent des propos très durs pendant cet apéritif qui devait être festif qui en réalité est un règlement de compte. Enfin,
il y a aussi la corruption quand même, hein, assez présente, dont on va retrouver d'ailleurs, qu'on la retrouvera dans d'autres films, le film dont on va parler tout à l'heure.
Et bien cet aspect aussi plongé dans la nuit qui est beau, parce que finalement c'est une plongée dans la nuit aussi bien réelle que métaphorique.
Oui.
Et avec quand même, ça se termine par l'ouverture sur l'aube, et on peut espérer voir l'espoir dans cette...
Il y a de l'espoir.
Oui, il y a l'espoir. Mais voilà, pour une fois, on est à peu près d'accord sur un film, c'est merveilleux. Du coup, on va demander à Arnaud de faire une petite pause pour attendre la suivante. On va donc reprendre avec le film de l'Iranien Mohamed Rasoulof, auteur de Un homme intègre. Alors, s'il y a un réalisateur dont le regard qu'il porte sur son pays lui a valu de graves ennuis, c'est bien ce réalisateur. Il a reçu le prix Un certain regard à Cannes, mais sa destinée iranienne est quand même assez lourde. Il a d'abord été condamné pour sa collaboration avec Yafar Panahi. Puis, il était de nouveau condamné à la sortie de son second film, Au revoir 2011, qui était un réquisitoire contre la République islamique et ses méthodes policières. Mohamed Rasoulof a ainsi écopé de 6 ans de prison, ramené à 1 an en appel. Il s'attend d'ailleurs maintenant à d'autres condamnations. Il s'est vu retirer son passeport il y a quelques semaines à peine, alors qu'il rentrait en Iran, retour des États-Unis, où il présentait son homme intègre. Ce qui n'empêche pas de continuer à tourner avec un courage exemplaire. Jean, est-ce que ce film est vraiment le brûlot que les gardiens de la révolution iranienne veulent voir en lui ?
Oui, absolument. Et on peut comprendre d'ailleurs l'ire des autorités. Le moins qu'on puisse en dire, c'est que la société iranienne n'est pas représentée dans ce film comme dans un prospectus publicitaire pour touristes. Reprenons le déroulé du film. Reza et Hadis, deux habitants de Téhéran, vivent maintenant à la campagne avec leur fils. Il possède un élevage de poissons rouges pour lequel Reza s'est endetté. Son banquier lui propose un délai supplémentaire s'il accepte de payer une somme minime à quelques dirigeants de la banque. Reza, homme intègre, refuse et préfère vendre la voiture de sa femme pour rembourser l'intégralité de sa dette. Sa femme le soutient dans ce geste de résistance. Mais ces difficultés s'aggravent quand il doit faire face à une compagnie des eaux qui veut récupérer son terrain et qui, pour cela, n'hésite pas à empoisonner son élevage de poissons. Reza et sa famille se trouvent alors pris dans un engrenage qui met en péril leur unité et leur sécurité.
La lutte du faible contre le fort n'est pas nouvelle dans le cinéma. Pourquoi ceci est différent ?
Oui, Razulov lui-même cite l'exemple des raisins de la colère de John Ford ou bien de Léviathan de Zaginsev. Mais dans un homme intègre, le réalisateur va plus loin. Au-delà de la lutte du pot de terre contre le pot de fer, le cinéaste veut montrer que la corruption est partout et que tout le monde est à la fois oppresseur ou opprimé au gré des circonstances et que la corruption prospère sur la lâcheté et la résignation de tous. À 10, l'épouse bien-aimée de Reza est directrice d'école et quand une mère d'élèves non musulmane vient lui demander son aide pour éviter que sa fille ne soit exclue du lycée, elle se borne à lui rappeler les règles imposées par les autorités sans faire un geste pour l'aider. Reza lui-même, quand il se rend dans la grande ville, retrouve la femme d'un ami réduite à vendre quelques marchandises dans la rue depuis que son mari est en prison. Tous les amis de son mari se sont détournés d'elle. Reza, comme les autres, n'a pris aucune nouvelle. Ainsi, chacun est coupable au minimum d'indifférence et participe au système par sa résignation. En témoignent ces phrases terribles d'un personnage. Il apprendra, la vie s'en chargera. Certains apprennent trop, d'autres pas assez.
Alors, que veut dire le titre original en iranien ?
Oui, alors, c'est, je crois que c'est intéressant, parce que le titre iranien est l'erd, ce qui signifie, d'après l'auteur, la lie, c'est-à-dire ce qui reste au fond d'une bouteille de vin. Ceci, évidemment, a un sens métaphorique. Et Razulov se montre très pessimiste, puisqu'il indique que tout le monde en Iran est concerné par la corruption ou la malhonnêteté. J'en ai déjà parlé avec l'épisode de Hadis et de la mère d'un élève non musulmane. Mais cela est aussi valable pour Reza lui-même. Par exemple, quand son beau-frère propose d'aller soudoyer un policier pour pouvoir le faire libérer, Reza ne s'y oppose pas. Plus grave encore, vers la fin du film, il commet un assassinat en donnant de l'argent à un gardien pour que celui-ci apporte un bonbon empoisonné à son ennemi. À la fin du film, les larmes de Reza sont donc pour pleurer sur le sort de toute la société iranienne, lui y compris. Le travail du metteur en scène est en phase avec la dureté du propos. Il n'y a pas d'effet de caméra, tout est très dur, avec beaucoup de gros plans sur les visages et des couleurs ternes. Les seules touches de couleur étant celles des poissons rouges. De même, le personnage principal est toujours sombre. Son seul et unique sourire est pour son fils. Le reste du temps, il est désespérant. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la tonalité générale de ce film qui vous prend à la gorge. Mais, comme l'a noté un critique, le seul aspect positif du film est qu'il ait pu être produit et présenté chez nous.
Oui, Jean, ta conclusion fait quand même un peu frissonner. Jacques, est-ce que toi aussi tu as été frappé, glacé même, par le pessimisme et la noirceur de ce film ?
Ah oui, c'est un beau film, mais il est d'un pessimisme absolu, quoi, puisque finalement le héros, contrairement justement au héros classique du western seul contre tous, bah, le héros il finit par rentrer dans le système, quoi. C'est peut-être un peu la limite. Bon, ce film est magnifique, hein, mais c'est un peu cette noirceur est peut-être un peu la limite du film. Un petit peu d'ailleurs, comme tu le disais, à l'image du visage du héros qui reste au fond pendant tout le film, mâchoire serrée, regard noir, désespérément oui. Figé. Quoi. Oui.
Il sourit qu'une seule fois.
C'est à la fois un acteur qui vous impressionne et au fond après on se dit mais on l'a jamais vu faire un mouvement différent.
Il y a pas un moment de détente pendant tout le film.
Il y a pas un mouvement de détente. Donc c'est un film vraiment qui a un coup de massue et puis qui est dont la conclusion est désespérément désespérante quoi. Alors le seul truc effectivement qui m'étonne toujours dans ces films iraniens, c'est quand même qu'ils arrivent à se faire et que finalement dans un système qui semble complètement coincé. Bon, les cinéastes, certes, sont condamnés, mais ils arrivent quand même à survivre et même plus à faire des films de ce type. Donc, il y a quelque chose qui est quand même très surprenant pour un étranger, que nous sommes.
Ces films ne sont pas vus en Iran, quand même.
Enfin, ils ne sont pas vus en Iran, ça, c'est le minimum, mais enfin, ils sont quand même vus partout ailleurs et on a l'impression qu'il y a un jeu très subtil de récompense par récompense, on les laisse aller à Cannes.
Enfin, et puis, il est condamné à 6 ans de prison, mais il les fait pas, dans ça, il peut continuer à tourner.
Les autorités sont très très fiers lorsqu'il y a des films qu'on parle de l'Iran.
Il y a un mélange de répulsion, un
mourrait plusieurs fois.
Oui, oui.
Tout à fait paradoxal. Mmh. Mais le film lui-même, il est quand même...
Ouais, enfin, il faut penser quand même que ça doit traduire une certaine réalité de
l'Iran. Je pense qu'il n'est pas à mettre en cause.
Oui. Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, c'est les histoires annexes. Il n'y en a pas forcément parlé, mais il y a plein d'histoires annexes qui sont évoquées et qui renforcent ce climat de dire... Tous pourris, quoi.
Oui, et alors justement, là, je voudrais rebondir sur ce point. J'ai trouvé, moi aussi, ce film très fort, terrible, enfin, où, quel que soit le côté vers lequel on se tourne, il y a corruption, concussion, passe-droit, pot de vin, enfin, c'est vraiment terrible. Mais ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que j'ai peur que... on pense que la société iranienne, c'est ça et ce n'est que ça. Je connais une frange de la société iranienne qui est loin, très loin de cette description-là. Ce sont des gens extrêmement cultivés, fins, intelligents et qui ne sont pas comme ça. Donc disons que c'est une certaine réalité de la société iranienne qui certes existe, hein, qu'il ne faut pas nier, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'Iran et toute la société iranienne n'est pas comme ça.
Oui, bah,
c'est quand même curieux que tout... Enfin, il y a ce film, mais pratiquement tous les films iraniens retracent la même vision de l'Iran, que ce soit Panahi, que ce soit Khomeini, c'est la même vision. Oui.
Parce que ce sont des films d'opposition au régime.
Des films d'opposition, mais qui... vont à l'étranger, c'est un peu ça la curiosité. Pour revenir au film lui-même, moi je trouve que c'est absolument remarquable ce film.
Oui, tout à fait.
J'ai bien aimé sa description de société à deux niveaux. La société, il y a l'officiel et en dessous, il se passe en dessous. Il y a le côté bureau et le côté couloir. On discute dans le bureau. Les choses ne sont pas possibles. Puis ensuite, on retrouve la personne dans le couloir. On peut peut-être trouver une solution.
Ou dans la voiture.
Et ça, c'est remarquablement fait.
Ouais. Ouais.
C'est quand même un des grands miracles du cinéma de nous montrer ce. Bah, on a vu l'Algérie, maintenant on voit l'Iran et ça nous ouvre les... Enfin, j'espère que ça nous ouvre les
yeux. Oui,
et puis également, enfin, ce qui est frappant aussi, c'est la contamination, j'ai trouvé, qui est bien traduite. Là. Oui. À quel point, même avec quelqu'un qui a la plus grande pureté, finalement, il est forcé de rentrer dans le système.
Il doit hurler avec les loups, sinon...
C'est peut-être le plus pessimiste.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de héros, même le héros devient...
Et il n'y a pas d'échappatoire.
Très pessimiste.
Sinon, il perd sa femme, il perd son gamin...
Et puis, non seulement, il rentre dans le système, mais quitte à rentrer dans le système... Bon,
il rentre carrément.
Parce qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Ils lui ont tout enlevé. Son exploitation, sa maison,
Il est décervelé, le malheureux. Oui.
Mais il ne lui reste plus rien, sauf à entrer dans le système et à se venger comme il peut.
Je trouve ça intéressant de comparer des films qui parlent de la corruption. Elle n'est pas les mêmes dans tous les pays. Je me souviens de Baccalauréat de Mungiu.
Oui.
Alors, en Roumanie, c'est plutôt le système du renvoi d'ascenseur en Roumanie. Je te fais un truc, tu me le rends d'une autre.
Oui,
alors que là, c'est toute la société qui est.
Mais les films, marche là-dessus. Les films roumains, comme d'ailleurs certains films aussi iraniens, manient la critique, mais aussi l'humour. Il y a une certaine distanciation. Là, il y en a
pas. Non,
on est plombé là.
Là, on est assommé carrément.
Et puis, comme Jean le disait, la façon de filmer est extrêmement dure, avec ses plans fixes.
Tout est dur.
Des plans fixes, très admirablement cadrés.
Ah, c'est pas du Guédiguian.
Les seules scènes un peu colorées, c'est l'incendie et c'est les poissons rouges.
Les poissons rouges.
Elles sont magnifiques, ces deux images.
Quand on voit ce magnifique plan de poisson rouge mort, on a l'impression qu'on a coupé la gorge de Reza.
Oui,
c'est son propre sang qui coule dans ce truc-là.
Un beau film.
Un très beau film.
Un très beau film.
Bien, on va passer au coup de cœur. On va commencer par Jacques qui voulait nous parler de La fiancée du désert.
Ah oui, alors La fiancée du désert, c'est moins noir. Hein. C'est un petit film argentin réalisé par deux femmes, Cecilia Attan et Valeria Pivato. Alors, il nous vient de temps en temps d'Argentine des petits films comme celui-ci. Je vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, Les Acacias.
C'est admirable, ce film.
Voilà. Joli film.
C'est un peu dans le même genre. Alors, La fiancée du désert, c'est Teresa. Teresa, elle a passé 30 ans comme bonne à tout faire dans une famille bourgeoise de Buenos Aires. Elle a élevé les enfants de la famille, auxquels elle est très attachée. Mais voilà, les enfants ont grandi, ils n'ont plus besoin d'elle. Et la mère de famille la renvoie du jour au lendemain sans ménagement. Et lui propose d'aller s'occuper de ses vieux parents à l'autre bout du pays. C'est plus les enfants qui ont besoin d'aide, mais c'est les vieux parents. Teresa ne bronche pas, parce qu'elle a toujours fait comme ça, elle ne se rebelle pas, et elle prend docilement son car. Mais le car tombe en panne dans un trou perdu, elle doit occuper son temps comme elle peut, et quand elle est prête à repartir, elle s'aperçoit qu'elle a perdu sa valise, sans doute laissée dans le camion d'un vendeur de fringues ambulant, où elle avait essayé une robe. Alors le film, qui donc démarre comme un film social, bifurque alors vers une espèce de road movie plein de poésie, d'abord à la recherche du marchand, et puis, lorsqu'elle l'a retrouvé, à la recherche de la valise. C'est une sorte de voyage initiatique, mais une voyage initiatique, c'est souvent pour les jeunes. Là, ça va révéler en fait une nouvelle vie possible à une quinquagénaire effacée qui n'était jamais sortie de son quartier. Alors, elle forme un couple assez bizarre avec le marchand ambulant qui ne tient pas en place, mais peu à peu, il va la faire rire et la faire sortir de son mutisme. Alors, bien sûr, dans un film de ce genre, il n'y a guère de surprise et l'histoire est très ténue, mais le film a beaucoup de charme, un petit grain de folie, les paysages sont superbes, les personnages attachants. C'est un beau conte de Noël, et si vous pouvez le voir, car il ne passe pas dans beaucoup de salles, ne le manquez pas.
Oui, tout
mais,
à fait.
Mais pourquoi
tout
ce titre, d'accord. Les fiancés du désert?
Ah ben parce que c'est comme si elle se fiançait. Et, et toute l'histoire se passe dans le désert.
Dans le désert.
La novia del deserto.
Si.
Bien, mais Marie-Jeanne, toi, tu as choisi très fait différence.
Alors oui, je voudrais vous parler de deux documentaires qui nous parlent de toute la misère du monde. Alors le premier nous parle de la misère mentale, de celle qui atteint ceux qui sont internés contre leur gré dans un asile psychiatrique. Il s'agit de 12 jours de Raymond Depardon, et comme à son habitude, on trouve la même bienveillance, la même humanité du réalisateur qui veut donner la parole à ceux qui sont rarement entendus. Dans 12 jours, il filme les entretiens de 10 personnes avec le juge des libertés. La loi, en effet, fait obligation à l'administration de ces hôpitaux de les présenter à un juge avant la fin des 12 premiers jours de leur enfermement pour vérifier que la procédure a bien été appliquée et décider ou non de poursuivre cet enfermement. Alors, comme à son habitude également, Depardon sait se faire oublier et nous nous trouvons au cœur de ces entretiens avec un malaise grandissant, je dois dire, car les cadrages au plus près des malades arrivent à faire naître en nous des sentiments plus complexes que ceux qu'on pensait éprouver. Cette part d'humanité si faible, si vulnérable, nous renvoie nécessairement à nos propres failles. Et l'honneur de Depardon est d'avoir donné la parole à ces êtres en souffrance, à nous inviter à les regarder avec bienveillance, humanité et amour. Alors le second documentaire traite de la misère économique, Makala, d'Emmanuel Gras, charbon en Swahili. Épisode de la vie au Congo d'un paysan qui n'a comme ressource que ses bras et la brousse. Il produit avec d'immenses efforts et des outils très rudimentaires du charbon. On le voit partir sur des routes dangereuses pour vendre son charbon qui est chargé sur un vieux vélo qu'il va pousser à pied nuit et jour pendant 50 kilomètres épuisants jusqu'au marché de la ville de Kolwezi, avec l'espoir naturellement de donner à sa famille de meilleures conditions de vie. Par ce documentaire, le réalisateur en dit très long sur cette Afrique, à certains égards désespérante, où non seulement les pauvres se font exploiter sans scrupules par les plus riches dans une société très inégalitaire, mais où ils se font également raquettés par d'autres avec la complicité de la police au mépris de toute solidarité de classe. Alors, sans être un film engagé, ce documentaire donne toute sa dignité à ce petit peuple bafoué et résigné.
Oui, mais ça me fait très envie. Je ne les ai pas vus. Si, je ne les ai pas vus encore. Donc, Jean Villecot, tu veux nous parler de Je ne suis pas une sorcière?
Oui, c'est aussi un film africain, comme celui de Marie-Jeanne, le deuxième. Alors, c'est une petite fille, elle a 8 ans, le regard farouche. Elle fixe une villageoise qui va chercher de l'eau au puits. Une chute, le bidon se renverse. Et il n'en faut guère plus pour que la fillette, Choula, soit accusée d'être une sorcière. Voici les premières images d'un film zambien de Rungana Nyaoni. Après cela, l'enfant se retrouve dans une sorte de camp itinérant de sorcières. Un long ruban blanc fixé à un fuseau l'empêche de fuir. Mais bientôt, la petite prisonnière, au pouvoir censément magique, se voit appelée ici et là pour identifier un voleur ou procéder à des incantations pour appeler la pluie sur les récoltes. Quant au gouvernement, il se sert d'elle à des fins bassement lucratives. Ce sont surtout les officiels que ce film brocarde, comme dans une séquence cocasse où le ministre du Tourisme et des Croyances Populaires, remarquez le titre, fait preuve d'une mauvaise foi évidente en se défendant de tirer profit du statut de Choula. La réalisatrice se moque aussi des touristes blancs qui descendent de leur car climatisé, achètent n'importe quoi, font des photos et remontent dans le car 5 minutes après en croyant avoir compris tous les sauvages.
Oui, c'est très ironique, quoi.
Oui. Alors, là, Rungana Nyoni utilise ainsi un humour ravageur qui donne plus de force au caractère tragique du parcours de cette petite sorcière.
Merci pour ces deux films qui parlent de l'Afrique. Moi, je vais changer complètement. Moi, je ne suis pas du tout sérieux dans cette affaire-là. Bon, moi, je sais
très bien.
Je sais bien. Noël est passé, mais je peux penser que toutes les boules des guirlandes n'ont pas encore été rangées, ni tous les sapins descendus à la poubelle, ni les livres de contes fermés jusqu'à l'année prochaine. Donc, je vais en profiter pour raconter un conte que je vous invite à aller voir. Ça s'appelle Santa et compagnie. Il est signé Alain Chabat et il nous conduit chez le Père Noël. Un Père Noël très américanisé. Il se nomme Santa Claus. Et son usine de fabrication des jouets a tout de Disneyland. Plus que des usines d'ailleurs, c'est une véritable ville. 95 000 lutins y travaillent jour et nuit dans un système de production quasi industriel pour répondre aux milliers de commandes qui ne cessent d'arriver. On remarquera d'ailleurs que Même si l'entreprise fonctionne un peu comme Amazon, les petits clients ignorent complètement Internet. Hein. Ils en sont encore à la lettre écrite au Père Noël. Bon, le système est bien rodé, il faut dire que ça fait 600 ans que ça dure. Mais voilà, un grain de sable grippe l'engrenage. Une mystérieuse catalepsie foudroie les 95 000 lutins. Seule solution, trouver dans le monde réel les vitamines qui les ramèneront à la vie. Poussé par une adorable et râleuse Madame Claus, Audrey Toutou, Santa s'y colle, embarque ce son 8 rennes, met le cap sur la terre et atterrit boulevard Clichy. On s'en doutait un peu. Un Père Noël sur notre planète, c'est plus ravageur qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, avec la pluie d'une famille, entre guillemets, normale de terriens qui a recueilli notre Santa Claus un peu dépassé, alors les deux parents sont joués par Golshifteh Farahani et Piyu Marmaye, et les garçons sont deux petits garçons absolument adorables. Alain Chabat fait feu de tous les gags offerts par l'extravagante situation et nous mène tambour battant jusqu'à son climax qui prend la forme d'une course-poursuite délirante en traîneau à travers Paris. Bon, on garde de ce film le sentiment d'un mélange de folie et de sérieux, d'absurde et de rêve, et ça sent l'enfance et l'aiguille de sapin, au moins du temps où celle-ci avait encore une odeur. Voilà pour Santa Fe, voilà pour cette émission. Je crois qu'il est venu le temps de nous quitter. Merci à Marie-Jeanne, merci à Jean, merci à Jacques qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté, à qui nous souhaitons une bonne fin d'année, un bon début de la suivante, et qui nous espérons retrouver en 2018 à l'occasion de notre prochaine émission Chant contre Chant qui aura lieu le mardi 23 janvier de 13h15 à 14h. À bientôt.